Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines on résume, on analyse les émissions phares de la WWE et consorts. Pour m'accompagner cette semaine, ce bon vieux tonton, comment ça va tonton?
Oh salut mon ignoble Ringside, comment vas-tu? Salut peuple de Catch Up.
Oh bah ça va bien, ça va bien. Et Papy est là aussi, comment ça va Papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour Inside, bonjour tonton, comment ça va, la fête?
Oui, enseveli sous la neige.
Ah bah là, ici ça neige à mort, dans le nord, là c'est le grand nord.
Ok, ça va, vous arrivez à dormir à l'EHPAD? Il paraît que Ric Flair, il lui met bien le tarif là, à l'IC Events la nuit.
C'est un peu difficile, oui.
Ouais, ça va, c'est court en général.
Ouais, vous débranchez le sonotone et puis ça reste pas très long. Alors, on va parler catch hein, pendant une heure. Vous savez comment que ça se passe à SmackDown. Hein, enfin, catch-up plutôt. On fait la review de toutes les émissions de la WWE et aussi de temps en temps de la AEW et de NXT. Donc ça, c'est la baston du mercredi. C'est quasiment toutes les semaines hein, maintenant. Vous retrouvez ça en ligne. Hein, allez checker. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite. Mettez un petit pouce bleu.
Tout de suite.
Tout de suite, tout ça c'est gratos. La petite cloche, comme ça vous savez quand ça débarque. Vous savez qu'on est sur YouTube, on est aussi sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts, hein, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Store, Apple Podcast, tout ça. On est dessus. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on va raconter. Et puis, on va pas tarder à démarrer l'analyse du show, mais d'abord une petite pensée par une annonce très triste là. On vient d'avoir l'info là, c'est Tonton qui me déclare ça tout de suite avant le début de l'émission. Je vous avoue que je suis un peu effondré. C'est le décès de Guy Auré, le commentateur historique de la WWE en France. Mon enfance a été bercée par ses commentaires avec Eddie Carpentier, c'est bien ça, et Raymond Rougeau. J'avoue que pour moi, c'est le meilleur commentateur de catch de tous les temps. Je suis pensé pour lui. Apparemment, il est décédé en août, mais on vient d'avoir la nouvelle. C'était resté un petit peu secret. Il est décédé du cancer. Très triste nouvelle. Hein. Les pensées à la famille. Tonton, t'as peut-être quelque chose à dire sur.
Je te rejoins dans les condoléances. C'est une grande tristesse. Alors moi, c'est pas vraiment mon enfance, c'est plutôt ma jeunesse. Et effectivement, ce duo là, Édouard Carpentier, Guy Auré, c'était quelque chose quoi. Si vous pouvez retrouver sur YouTube quelques vieux émissions de Canal+, les superstars du catch. Pour retrouver un peu en particulier les commentaires des deux quand l'Ultimate Warrior, Tatanka ou le Macho Man débarquaient sur le ring, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je sais qu'ils ont largement contribué à mon amour et à ma passion indéfectible pour l'ignoble sport depuis toutes ces années. Alors, on est gâtés en France puisqu'on a quand même un duo de commentateurs dans ce 21e siècle assez incroyable dans la personne d'Ajus et Chéreau. Mais vraiment, voilà, j'ai envie de dire que Auré et Carpentier, c'était les originals.
Ouais, c'est exactement ça. Papy, je crois que t'as pas trop de souvenirs, toi, de la.
Ouais, mais c'est le problème avec Alzheimer, c'est que du coup, en fait, je me souviens absolument pas du catch, des commentateurs plutôt, des années 90. Alors, autant j'ai beaucoup de souvenirs de tous les personnages que vient de dire Tonton, donc je sais que j'ai regardé à cette époque-là et que certainement, c'est leurs commentaires qui m'ont donné coup au catch. Mais malheureusement, je serais incapable de ne mettre une voix sur ce nom-là. Mais bon, c'est toujours une triste nouvelle quand quelqu'un de cet ignoble univers quitte ce monde merveilleux.
Incroyable commentateur qui jouait le heel hein, dans les émissions chaque semaine. Et il était extraordinaire quand il se foutait de la gueule des catcheurs face. Hein, Bret Hart, le cerveau gelé.
Et toutes ces sortes de choses. C'était un gars qui était incroyable, hein, parce que il est né en 1943, mais c'était un gars qui était, attention, c'était une tronche, hein, il est doctorant en psychologie et maîtrise en anthropologie sociale. Fallait pas déconner avec lui, quoi.
Il faut au moins 5 ans pour prendre du catch.
Ouais. Au moins ça, ouais, le niveau. Le niveau pour commenter du catch requis est énorme. Donc non, ouais, c'était vraiment voilà, ça. Je crois que c'est un gars qui a bercé l'enfance de Ringside et mon adolescence, ma jeunesse, plutôt ma jeunesse que mon adolescence d'ailleurs. Mais ouais, j'en garde un souvenir vraiment ému. Voilà, j'ai appris ça ce matin. Effectivement, ça a été caché finalement, plus ou moins, quoi, parce qu'en fait, il est décédé véritablement au mois d'août. Et voilà, il est mort chez lui à Montréal. Ouais, c'est
selon son souhait. Hein. Vous voulez pas mourir à l'hôpital. Mais...
C'est triste, lui. Quoi, de commencer ce SmackDown par l'annonce de ce décès.
Ancien champion d'arts martiaux, effectivement, et qui était qui est apparemment le premier occidental à avoir battu des Japonais au championnat du monde de karaté tenu en Floride en 65, d'après Wikipédia.
Décidément, c'est loin d'être un tocard.
J'avais un doute sur les dates d'arrivée justement de Auray et Carpentier, mais là j'ai checké en même temps et c'était bien ce que je pensais. C'est donc bien en 1985 et non pas au début des années 90. Hein. Parce que dans mon souvenir, je me rappelais vraiment que Canal avait commencé le catch très tôt dès sa diffusion, et c'était bien le cas. Hein. Ils ont commencé dès 1985 avec donc la fameuse émission des superstars du catch. Et voilà, c'était quelque chose de. Il avait 77 ans. Et ben voilà. Et ben rest in peace, Guy Auray.
Un genou.
Rest in peace. Bon voilà, on va quand même parler de SmackDown, hein, c'est pour ça qu'on est venu à la base. C'est le SmackDown du 15 janvier, toujours au Thunderdome, toujours dans la même ville, je sais plus c'est laquelle. Vous souvenez du nom du
truc? C'est pas Tropicana, machin chouette.
Tropicana Field, ouais, c'est en Floride.
Voilà.
Tropicana
Field. Voilà. La Floride, hein, le pays des retraités. On démarre le show dans les vestiaires, dans la loge luxueuse de Roman Reigns, qui est accompagné de Paul Heyman, évidemment, et de Jey Uso. On nous apprend, en gros, que c'est bien Roman Reigns qui tire les ficelles de SmackDown, désormais. Il y a un petit contrat qui doit être signé ce soir pour le match qui va opposer Roman Reigns à Adam Pearce. Parce qu'on vous rappelle que la semaine dernière, Roman Reigns a imposé en quelque sorte Adam Pearce dans le Gauntlet match qui devait définir l'aspirant numéro 1. Et il s'est arrangé pour que Adam Pearce remporte le match. Hein. Il a tout simplement assommé Shinsuke Nakamura qui a fait une énorme performance pendant ce Gauntlet match. Et il a posé Adam Pearce sur le corps inanimé de Nakamura. Et donc Adam Pearce, qui est donc l'équivalent d'un general manager de SmackDown, est l'actuel aspirant numéro 1 pour aller affronter Roman Reigns, qui veut vraiment s'imposer comme le grand patron de SmackDown. Donc tout ça c'est bien beau. Ce soir, signature de contrat, et Paul Heyman va ajouter une stipulation au match. Hein. Il dit qu'il faut une stipulation pour que ça ait vraiment de l'intérêt. Et cette stipulation, ce sera un match sans disqualification. Il va se charger d'aller trouver Adam Pearce pour le faire signer assez rapidement. Et après, on va passer peut-être au premier match, puis bon, vous donnerez votre avis. Jey Uso, qui est dans le ring, qui prend le micro, qui explique que tout le monde devrait remercier Roman Reigns, puisque c'est lui qui fait monter les audimats, c'est lui qui rend le show relevant, comme on dit, pertinent. Tout le monde devrait le remercier, c'est lui qui apporte à manger à la table des catcheurs. On devrait être fier de pouvoir affronter Roman Reigns, tout comme Adam Pearce devrait être fier d'affronter Roman Reigns. C'est maintenant eux qui font les décisions. Et Jey Uso, il a une décision qu'il a prise à annoncer, qui va dans ce sens, puisqu'il se déclare participant au Royal Rumble. Il explique que ça, c'est le choix numéro 1. Son choix numéro 2, c'est-à-dire qu'il va gagner le Royal Rumble et il va aller affronter Drew McIntyre. Et comme ça, ils seront double champions, lui et son cousin, et ils seront enfin les patrons absolus de SmackDown. Mais ce soir, il a fort à faire, puisqu'il doit affronter Shinsuke Nakamura. qui débarque au ring, qui est pas très content de s'être fait humilier la semaine dernière. Il prend le micro et il explique Shinsuke Nakamura que si le Big Dog Roman Reigns c'est le Big Dog, eh ben ça fait de Jey Uso le Little Puppy, hein, le petit chiot. Il rigole bien. Jey Uso est pas content, il essaie de l'attaquer. Nakamura le contre avec un bon coup de pied retourné. C'est la pub. Après on revient pour le match proprement dit. C'est Nakamura qui va dérouler hein, pendant un bon moment, mais une musique retentit. Que se passe-t-il ? C'est Cesaro qui débarque pour se joindre aux commentateurs à la surprise générale. Cesaro qui dit qu'il est du côté de Nakamura, qui va assurer ses arrières, etc. Et ce soir, il doit affronter Daniel Bryan.
Et il annonce surtout aux commentaires, il annonce sa participation au Royal Rumble match.
Voilà, ce qui est une énorme surprise, mais vu le peu de catcheurs qu'on a en ce moment, je pense qu'ils seront tous dans le Rumble hein, quand même, hormis Drew Gulak. Donc le match continue, au final, Shinsuke Nakamura va gagner, hein, tout simplement. Un bon Kinshasa dans la face de Jey Uso qui va d'abord penser avoir gagné le match parce qu'il va faire un roll-up avec les pieds dans les cordes, comme il sait si bien le faire, mais l'arbitre l'a vu, hein, le Charles Robinson, l'arbitre Lynch, et il pense avoir le match gagné, ce bon vieux Jey Uso, mais en fait non, l'arbitre ne fait pas sonner la cloche, il dit non, le match continue, et Nakamura en profite pour gagner le match, hein, tout simplement, Kinshasa dans la face de Jey Uso, victoire de Nakamura. Un peu plus tard, Jey Uso va engueuler le Charles Robinson, hein, l'arbitre du match en lui disant fais gaffe à ton job, hein. Normalement j'avais gagné, c'était 1-2-3, ça va pas se passer comme ça. Voilà, ce début de match donc qui tourne autour de la famille Roman Reigns, le clan Roman Reigns, et Nakamura qui est gagnant, le retour de Cesaro. Papy, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Et un autre retour que tu as oublié, le retour de la musique de Shinsuke Nakamura, vu qu'il a viré... Il a viré les petites paroles de sa musique, il a repris sa musique originelle, donc je pense que ça confirme son passage face, hein, là quand tu reprends ta musique, hein, c'est une preuve intangible, tangible. Bref. Gros démarrage avec la famille Reigns, avec tout le monde qui papote, et on voit que c'est une belle famille de connards, entre Jey Uso, Paul Heyman, Roman, c'est tous des bonnes bandes de connards. Et puis qui se félicitent de foutre la zone et puis qui sont heureux dans leur business. Au moins, ça nous met directement dans le bain. Et derrière, on enchaîne avec Main Event, Jey Uso qui fait du coup un opener. Mais par contre, face à Shinsuke Nakamura, qui confirme qu'il est bien en train de se replacer, vu que deux fois de suite, quand même, et avec deux victoires en plus, enfin, une quasi-victoire la semaine dernière, c'est plutôt bien pour lui. Et puis voilà quoi, Cesaro qui aussi tourne autour de là. Voilà, vous posiez la question la semaine dernière à savoir s'il allait faire partie de l'équation. Bah manifestement oui. Donc SmackDown continue à construire son truc. On a des participants au Rumble, on a la famille des connards, on a l'association Nakamura Cesaro qui continue. Plein de choses notables dans ce segment d'ouverture. Hein.
Ouais, les histoires qui avancent et un Cesaro qui n'est pas oublié. Effectivement, le retour de la musique de Nakamura originale. On est bien content. Tonton, satisfait, toi, de ton côté ?
Ouais, écoute, en plus, moi, j'ai trouvé le match plutôt bon. On a eu un match de 12 minutes 20 quand même, quoi. C'était plutôt pas mal. Moi, je trouvais qu'il y avait pas mal d'alchimie là, entre Uso et Nakamura. Ils se sont bien envoyés. Alors effectivement, tout ça découle après de segments d'ouverture là avec Heyman et Reigns. Reigns est vraiment dorénavant le patron absolu de SmackDown, quoi. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. c'est assez incroyable, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que quand Paul Heyman lui amène le contrat, en fait, il lui explique direct que écoute, en fait, c'est le même contrat que tous les autres que d'habitude. Hein. C'est juste qu'on change le nom du challenger et puis voilà, quoi. Et Roman Reigns, vraiment, il est en mode, limite, ça le saoule, quoi, hein, limite, on ne sent pas super enthousiaste, en fait, quoi. C'est juste qu'il a juste, en fait, besoin de montrer à Pierce qu'il ne faut pas le prendre à la légère, mais on sent tellement qu'il va lui casser la gueule, puissance 1000, que bon, c'est limite ça le saoule, quoi. Et puis bah voilà, du coup on a eu que plein de tout un tas d'annonces, quoi. Effectivement, le retour du theme song de Nakamura, les annonces de Uso et de Cesaro pour leur entrée dans le Rumble. Enfin bref, c'est bien, c'était vachement animé cet opener de SmackDown, quoi. Il s'est passé plein de choses, quoi, en l'espace d'une 15-20 minutes là, et ça lançait plutôt bien le show, je trouvais. C'était plutôt intéressant. Et je ne savais pas, c'est Jey Uso qui l'a signalé pendant sa promo, mais je ne savais pas que Adam Pearce avait été 5 fois champion à la NWA. Et du coup, quand j'ai vu ça, bah, par curiosité, j'ai été voir quelques matchs d'Adam Pearce à la NWA et à la Ring of Honor aussi. Je l'ai regardé dans un match face à Hangman Page, qui était tout jeune, hein, dans le match que j'ai vu, hein, qui était vraiment encore tout jeune, qui était pas très très pas très gaulé, on va dire, à l'époque. Et c'est pas trop mal, hein, ce que j'ai vu d'Adam Pearce. Hein. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc écoute, et ben tout ce bloc là qu'on a eu pendant 20 minutes là, je trouve a très bien lancé ce SmackDown.
Effectivement, la Ring of Honor qui a mis en ligne sur YouTube le dernier match d'Adam Pearce face à effectivement Hangman Page. On y voit aussi BJ Whitmer, Roderick Strong qui débarque aussi à un moment donné.
Ouais, c'est vrai.
Et le zombie princesse, là, je sais plus, j'arrive jamais à me souvenir de son prénom, là, qui était scénariste à la WWE à une époque. Jimmy Jacobs, voilà.
Ah oui,
Jimmy
d'accord.
Jacobs, c'était tout cela pour le dernier match d'Adam Pearce. Effectivement, moi, je l'avais jamais vu catcher, j'ai regardé ce match aussi. Il est loin d'être mauvais. Hein. Il catch à l'ancienne, un peu un brawler façon JBL, je trouve.
Ouais, c'est ça, un gros brawler.
Ouais,
bonne grosse brute.
C'était plutôt cool. Ça aurait été sympa de le voir un petit peu catché à la WWE. On nous annonce ce soir que Bayley présentera son petit talk show Ding Dong Hello, la première de ce talk show, et l'invité sera Bianca Belair. Dans les vestiaires, Paul Heyman vient voir Adam Pearce et Sonia Deville, son assistante. Elle a l'air très contente de voir Paul Heyman. Sonia Deville, je pense, qui est anguille sous roche. Donc, il lui donne le contrat. Il lui dit, c'est un match sans disqualification, t'as intérêt à le signer. Adam Pearce n'a pas trop le choix, il le signe. Et puis, il lui rend le contrat. On a une récap de Dolph Ziggler contre Robert Roode. Pas du tout. Dolph Ziggler et Robert Roode à Street Profits et SmackDown Tag Team Titles. Oui, on a une interview des Street Profits par Kayla Braxton. Qui nous disent que on peut les traiter de beaucoup de choses, mais en tout cas, on peut plus les appeler champions et que c'est pas parce qu'ils ont fait une erreur qu'ils vont pas pouvoir récupérer les ceintures. En gros, ils gagneront à nouveau, hein, les ceintures. De champion tag team, hein, puisqu'on se souvient qu'ils ont perdu les Street Profits face à Dolph Ziggler et Bobby Roode la semaine dernière, à la surprise générale. Ça vous a convaincu, cette petite interview des Street Profits?
Ah non, moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Ils font chier avec leur interview coulisse, là.
Exactement, il n'y a pas de place pour eux.
C'est du classique, hein, avec eux. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait surtout pas beaucoup de temps d'antenne pour eux cette semaine. Donc, du coup, c'est un peu pour ça qu'ils sont revenus, j'ai presque envie de dire, aux fondamentaux, les Street Profits, là. Et c'est reparti pour des promos backstage. Quoi. C'est un peu, c'est quasiment leur gimmick depuis leur arrivée dans le main roster.
Exactement. Ils ont peut-être plus de chance la semaine prochaine. Je trouve qu'Angelo Dawkins, il gère bien quand même le micro et la caméra, de mieux en mieux, je trouve. On verra.
Jusqu'à qu'il trahisse l'autre et puis qu'il se sépare et puis que deux jours plus tard, il soit 205 et à NXT, et puis voilà. Au revoir.
non, arrête. Je pense que c'est deux gros projets quand même, les deux-là, mine de rien.
Je l'espère pour eux, c'est un talent, mais qui. Bah, franchement, je préférais pas les voir du tout que de les voir faire un segment comme ça, quoi.
C'est pas faux. Mais bon, il y avait plus beaucoup de temps d'antenne pour les pauvres. Alors, chose surprenante, retour au vestiaire, Roman Reigns est en train de discuter avec Apollo Crews. Parce qu'il doit valider le heel turn d'Apollo Crews, hein, parce qu'il n'est pas en train de menacer Apollo, il est en train de lui donner des conseils. Et là, il y a Paul Heyman qui débarque avec le contrat. Il y a Apollo Crews qui veut partir pour les laisser tranquilles, poliment. Mais Ryan, tu dis non, non, reste là, tu vas prendre des trucs, tu vas voir. Et donc, Paul Heyman, il explique à Roman Reigns que le match sera sans disqualification. Et là, Roman Reigns, il dit non, j'ai pas envie de cette stipulation. Moi, ce que je veux, c'est un last man standing. Donc, tu vas aller voir Adam Pearce et puis tu vas régler ça.
C'est bon, ça.
C'est... Voilà, il y aura une signature dans le ring, hein. Si c'est
ouais, enfin, parce que Eman sur le coup quand même dit à Reigns que mais t'es fou quoi, jamais Adam Pearce il va accepter de signer pour un match pareil quoi. Et c'est du coup Reigns lui dit bah vas-y, bah va le prévenir quoi, et tu lui dis que il vient sur le ring direct ce soir et qu'on va en parler entre hommes.
à toi de gérer ça, voilà, ouais. Polo là, et c'est ton rôle de gérer ça.
Qui bosse.
Garde-toi. Et c'était bon parce que là, franchement, je disais qu'en ouverture, c'était la bande de connards. Bah, alors là, Roman, il se met en statut méga connard. Il a rien dit pendant le segment d'ouverture quand l'autre lui a dit qu'il mettait une stipulation no DQ. Puis là, il fait ah non, mais finalement, j'en veux pas de ta merde. Il cherche ta stipulation et retourne-y. Allez, merdeux, vas-y, faire signer.
Et puis ce qui est fou, c'est que même un Apollo Crews, qui est quand même un bon morceau de viande, quoi, et ben à côté de Roman Reigns en ce moment, même lui, il fait petit garçon, quoi. C'est vraiment Roman, il prend tellement l'écran, hein, le mec, il envahit tout le truc, et c'est il est incroyable, quoi. Apollo Crews, il est là, il est tout recroquevillé dans son siège, et il écoute religieusement le chef tribal, et voilà, et tu fermes ta gueule.
Ça. Intelligemment, comme il avait rien à dire, Apollo Crews, il a fermé sa gueule.
Bah voilà, tu vois, les Street Profits devraient faire pareil.
Voilà, apprenez un peu d'Apollo Crews. Voilà, donc l'histoire suit son cours, le fil rouge de l'émission, et on va aller un petit peu du côté des filles, parce que je sais que vous aimez bien ça.
Oui.
Natalia, qui est
non.
Voilà. Natalia, donc accompagnée de Tamina, affronte le Riot Squad. Natalia plutôt affronte Liv Morgan, et elle est accompagnée de Ruby Riot et de Billy Kay, la nouvelle membre du Riot Squad. Donc, Billy Kay, elle vient déguisée en punk, hein, désormais. Elle vient un petit peu motiver les troupes. Elle va aux commentaires. Elle raconte un peu des conneries avec Corey Graves, etc. Et puis, à un moment donné, elle va aller autour du ring. Mais à un moment donné, elle se fait poursuivre par Tamina. Et elle n'a d'autre choix que de rentrer dans le ring, alors même que Natalia et Liv Morgan sont en train de se foutre sur la gueule. Qui distrait Liv Morgan et ce qui va profiter à Natalia pour placer le petit paquet des familles. Et 1, 2, 3, victoire de Natalia. Liv Morgan n'est pas contente, Ruby Riot n'est pas contente non plus, Billy Kay ne sait plus où se mettre. Voilà, ça se passe mal, l'intégration de Billy Kay dans le Riot Squad, puisqu'on se souvient que la semaine dernière, elle s'est un peu imposée hein, dans le truc. Elle a chialé, et puis les autres ont fini par accepter. Mais voilà, elle coûte déjà la victoire à Liv Morgan après un match qui était plutôt pas mal quand même, non, entre Natalia et la petite blonde. Qu'est-ce que t'en as pensé, tonton ?
Ouais, Liv Morgan fait de plus en plus de progrès, je trouve. Bon, le match, un peu moins de 5 minutes, quoi, 4 minutes 35. Mais je trouve que la jeune blonde fait pas mal de progrès, quoi. Et je trouve que de semaine en semaine, ces matchs sont de plus en plus bons. Et ça, c'est plutôt sympa. Après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de coller Billy Kay dans leur Riot Squad?
Ah oui.
j'ai des forts doutes.
Arrête-toi. On n'a rien à faire du Riot Squad.
Mais voilà. Après, bon, comme d'habitude, hein, dans la division féminine et comme souvent à SmackDown, bah, encore un match qui éternellement se termine par un roll-up. Voilà. Donc, c'est assez déprimant, ça, je trouve. Quoi. Moi, est-ce que l'un de vous deux est capable de me dire c'est quoi le finisher de Liv Morgan?
Bah, elle l'a fait, je crois. C'est quand l'espèce de truc où elle fait le double coup de genou dans la face de Natalia. Mais elle s'est relevée, Natalia. Donc ça,
ouais, c'est son face breaker, en fait. Ça, il s'appelle son finisher, quoi. Mais bon, comme elle ne gagne jamais avec son finisher un match, voilà, ça, c'est toujours le truc qui me pose problème à la division féminine. Hein, c'est cette maudite manière qu'ils ont de systématiquement terminer les matchs par roll-up. Bon, enfin, bon, il va falloir s'habituer. Hein, c'est comme ça.
Surtout que c'est pas des roll-ups qui sont justifiés. Tu sais, tu pourrais dire c'est un roll-up pour protéger le mec et tout, ou la nana plutôt en l'occurrence et tout. Là franchement, Liv Morgan se faisait prendre par Natalia dans le Star Trooper et c'était bon quoi.
Trooper.
Je me suis planté, ouais, je me suis couré, je me suis dit putain merde, Starship Trooper, mais non, c'est pas ça, c'est quoi déjà le nom du truc? Mais bon.
Sharpshooter.
Sharpshooter, voilà, putain. Je me suis senti. Mais bon, je me suis allé, c'est parti, t'es lancé, ça a passé tout seul. Mais non, c'est pas passé. Et donc voilà, donc ouais, donc si Nathalie l'a attrapé dans le Star Trooper, notre ami. Notre ami. Ah oh, putain, j'ai oublié son nom du coup. Bon voilà, bref.
Mais on s'en fout.
Je voulais dire, c'est tout. Allez, on s'en fout.
En tout cas, on en a marre des roll-up dans la division voilà. Féminine. Mais Billy a de bien jolies jambes quand même. Passons aux choses sérieuses. Le roi Corbin affronterait Mysterio. Alors déjà, vous allez m'expliquer parce que le roi Corbin, c'est fini ces deux acolytes là.
Ah ouais, je sais pas. Ouais, ils ont disparu. Il
bon, Dominique Mysterio est au commentaire. Donc bon, ça se bat hein, tranquillement entre Rey Mysterio et King Corbin. C'est plutôt King Corbin qui a l'avantage. Alors les commentateurs, ils asticotent un petit peu Dominique. Hein, ils disent alors, c'est pas trop dur de voir votre père se faire démolir là sous vos yeux. C'est quoi votre projet là maintenant que vous êtes superstar? Bon, Dominique, il dit bon, ben, j'aimerais bien devenir champion tag team avec papa. Voilà, King Corbin débarque, il dit tiens, tu veux te battre, Mysterio, il pousse Dominique Mysterio. Et Dominique Mysterio ne réagit pas, il dit non, je ne peux pas y aller parce que sinon papa va être disqualifié, vous comprenez. Un peu de sérieux, tout ça. Mais finalement, il va quand même aller dans le ring au bout d'un moment parce que Corbin n'arrête pas de l'insulter. Là, Rey Mysterio, il dit non, ne viens pas, retourne là-bas, mon fils. Et ben Corbin, il en profite pour défoncer la gueule de Mysterio avec son petit pas de danse, là. Le End of Days. Et c'est la victoire de Corbin. La famille Mysterio n'est pas content. Dominique, il dit, ah, papa, il faut qu'on aille casser la gueule de Corbin et tout ça. Rey Mysterio, il dit, mais non, mais fais gaffe quand même, il est champion de boxe. Former Golden Glove champion, là. On a beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il était un ancien champion de boxe, hein, Baron Corbin. Et donc Rey Mysterio lui dit, écoute, si tu veux t'occuper de Corbin, moi je sais à qui il faut aller parler. Et nous n'en saurons pas plus pour cette semaine. Donc voilà, la rivalité continue entre Rey Mysterio, Dominique Mysterio et le Baron Corbin, qui est définitivement seul désormais, j'ai l'impression. Pas de Murphy non plus, pas d'Alia Mysterio, c'est à l'os un petit peu cette rivalité. Papy, un petit mot sur tout ça?
Ouais, alors est-ce que c'est aussi des absents comme pour Raw, des absents dus à des cas Covid? Je ne saurais pas dire.
Aussi.
Parce que effectivement, c'est bizarre que ces deux hommes de main disparaissent du jour au lendemain comme ça. Murphy, ça fait un peu plus longtemps qu'il n'est plus là. Et il a l'air bien occupé, ce garçon. Et puis, le End of Days, c'est toujours un finisher imparable. On ne s'en sort pas. Quand ça tombe.
On ne se relève pas du End of Days.
Voilà, exactement. Tu ne peux pas te relever du End of Days, mais ce n'est pas plus mal. Je trouve ça bien qu'il y ait on parlait de part de roll-up. À la limite, un bon vieux finisher qui est imparable, c'est quand même quelque chose qui est bien plus sympa quand même à voir.
Ouais.
Mais bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il relance le projet Dominique qui était arrêté depuis quelques mois, j'ai envie de dire, parce que finalement, depuis sa victoire contre Rollins, il n'y avait pas trop eu le lendemain. Enfin, si, après, il y a eu tous les coups de kendo stick là, sur Murphy, mais après, il n'y a plus rien eu. Et puis là, j'ai l'impression que ça redémarre parce que certainement que la surprise de Mysterio, c'est un match de Dominique contre Corbin la semaine prochaine, j'imagine.
Il lui dit à la fin qu'il sait, voilà, qu'il sait exactement comment il va régler l'affaire, le Ray, quoi. Et qu'il sait exactement quelle est la personne qui va pouvoir les aider à monter ce plan-là. Donc, apparemment, il y aurait une tierce personne qui serait impliquée, quand même.
J'ai vu ça comme ça aussi, moi.
Ah, bah, moi, je pensais qu'il allait voir Adam Pearce, en fait. Mais bon, là, vous avez peut-être raison.
C'est qu'il est vraiment pas futé, alors, Dominique, s'il est obligé de lui expliquer ça.
Bah, il débute, hein, il débute.
Écoute, je sais qu'il doit aller parler. Oh, pas trop.
C'était un match quand même assez expéditif, ça a duré 5 minutes. Hein. Mais je vous rejoins sur le fait que c'était bien cool, que même si je déteste voir King Corbin battre Mysterio, mais c'est bien cool que ça se termine sur un finisher et non pas un roll-up, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais j'ai trouvé que la bonne nouvelle de ce segment, encore une fois, c'était l'annonce de Dominique Mysterio au commentaire pour dire qu'ils étaient en train de lorgner du côté de la Tag Team Division. Et moi, je valide l'attaque team, les pères et fils. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment cool, quoi. Et ça peut être l'occasion de faire des trucs assez sympas autour de ça. Donc je dis banco.
Voilà. Moi, je lui dis encore beaucoup de boulot avec Dominique. Donc, effectivement, l'attaque team, c'est peut-être pas le... C'est peut-être le chemin le plus sûr.
Oui, et tu vois un avenir, un individuel pour l'instant à Dominique Mysterio, j'ai envie de dire non, moi. Hein. Donc, je pense que la tag team, c'est vraiment, une bonne solution là pour pouvoir mettre over le jeune et continuer à avoir papa dans le ring. Parce que moi, ça me fait toujours plaisir de voir le roi des luchadors dans le ring. Ouais.
Mais il est incroyable, hein, Mysterio, encore pour son âge. Hein. Je dirais, le match, il était vraiment très bon, hein, j'ai trouvé. Alors, pour sortir un bon match de Corbin, en plus, il faut y aller. Hein,
mais... Oui, en plus, le match était bon. Hein.
C'est pas simple. Hein. Bon, alors, en même temps, ils sont restés que 5 minutes sur le ring, donc ça aide aussi. Mais on peut reconnaître à Rere qu'il est toujours dans une super forme, quoi, qu'il reste aérien, qu'il continue à. On sent qu'il continue à s'entraîner sérieusement et tout ça. Et tu vois, à la différence de beaucoup d'anciens, on sent qu'il n'est pas là en part-timer, quoi, qu'il a et qu'il taffe. Quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Quoi.
Ouais, non, et puis là, il déroule encore un très très bon catch, bien meilleur que la plupart des gens du roster. Non, il est encore au top, hein, je trouve, Rey Mysterio. Donc voilà, n'hésitons pas à partir effectivement peut-être sur de la tag team avec lui. Un petit dernier run face à Roman Reigns, moi je serais pas contre. Hein. Mais bon, voyons ce que ça a donné la suite. Est-ce qu'on va vers peut-être un retour de Cain Velasquez?
Non. Non, là je crois que Cain Velasquez,
sur les deux dossiers,
elle a enterré le projet. Quoi, hein.
Ouais, ça doit coûter cher quand même à Cain Velasquez. Hein.
Tant mieux.
Et tant mieux.
Mais aucune idée sur qui pourrait venir la semaine prochaine taper le baron.
Oh, alors là, comme ça, là, Morphy paraît la piste la plus évidente, quoi.
Ou le grand qui était à Raw Underground, là. Je sais plus, il a 14 noms différents.
Babakato,
Bébé Coco.
Ouais, je sais pas quelle est la ramification avec les Mysterio de ce. De...
Ah, bah si, attends, c'est facile du coup. Attends, vu qu'il n'y a pas de ramification et qu'il cherche quelqu'un à ramener, ça sera très bien de Priest.
Ah, pas con.
Une grosse brutasse.
Mmh. Ouais.
Quand on dit pas loin de monter, bah là, ça sera pour sa pomme alors.
Bah voilà, il fallait réfléchir un petit peu. On tient le truc, on prend les paris, on verra la semaine prochaine. C'est bien l'arrivée de Damien Priest.
Damien Priest, je le vois arriver, mais je le vois arriver qu'au Rumble, je le vois pas arriver dans un weekly. Ça me paraît très vachement étonnant qu'il débarque dans un weekly avant le Royal Rumble match. Mais bon, on verra. Écoutez, si vous avez
il voulait le faire venir il y a deux semaines.
Ouais, mais Kevin Owens, il avait mis son veto déjà, quoi. Donc ça commence mal d'ailleurs.
Une porte se referme, une autre s'ouvre pour lui. C'est pour ça en fait. Mais après, ouais, il y a aucune raison plus qu'il vienne d'être Mysterio, mais bon. S'il cherche vraiment à le mettre quelque part, bah, en l'occurrence, une grosse barbaque comme ça contre Corbin, ça pourrait être sympa. Quoi.
C'est vrai. Mais je serais plus chaud pour revoir un Corbin Mysterio, moi. Mais bon, on verra bien. Ding Dong, qui est là? Eh bien, c'est Bayley. Bayley et son nouveau petit show. Son show avec des guests. Son talk show, voilà. Je vais trouver le mot. Elle reçoit donc Bianca Belair. Alors, elle a un joli petit décor avec une porte. Alors, il faut passer par la porte hein, quand vous venez chez vous sonner. Puis, c'est elle qui vous ouvre, Bayley. Bon, elle ne joue pas trop le jeu, Bianca Belair. En plus, quand elle rentre, elle vient s'asseoir dans le canapé de Bayley. Hein, parce que Bayley avait son canapé et puis l'invité a un petit tabouret. Donc, Bayley a dit, bon, bah, je vais rester debout. Hein, c'est pas grave. Il y a bientôt le Rumble. Il faut que je m'échauffe, tout ça. Elle lui pose la question à Bianca Belair, dis-toi pourquoi c'est quoi ce surnom EST? Donc Bianca elle dit bah c'est parce que j'ai beaucoup de talent, tout ça. Elle dit ah tu crois que t'as beaucoup de talent? Elle lui dit Bayley mais tu manques pas un peu de respect à tout le monde? Alors qu'est-ce que on va montrer qui c'est la meilleure? Et donc là Bianca Belair elle dit ok. Et puis Bayley elle lui dit la semaine prochaine on fait une course d'obstacles. Et puis à l'autre Bianca Belair, elle dit ah bah parfait justement c'est ce que je voulais faire. La semaine prochaine, cours d'obstacles, parcours du combattant. D'un côté Bayley et de l'autre Bianca Belair. Bayley qui met des lunettes avec un petit voile violet comme ça dedans et Bianca Belair qui est habillée en pyjama.
Comme d'hab.
Voilà, comme d'hab, la semaine prochaine, le segment classique d'AtoutVLWE, de la course d'obstacles. Là, on avait eu ça avec Bobby Lashley, souvenez-vous, quand il était en rivalité avec Sami Zayn. On a eu aussi des petits concours de ça qui était le meilleur entre Matt Hardy et MVP.
Entre les Street Profits et les Viking Raiders.
Il y avait voilà, ça aussi.
On revient voilà. De manière cyclique.
On part dans le classique, mais peut-être dans l'efficace, je ne sais pas. T'as été convaincu, tonton ?
Voilà, pas du tout, parce que autant j'étais totalement convaincu par le fait de cette feud là entre Bianca Belair et Bayley. Moi, j'étais assez chaud. Et du coup, quand le Ding Dong Hello a commencé, bah, j'étais plutôt content, tu vois, que ça parte comme ça, parce que c'est plutôt une rivalité que j'attends. Et que ça se passe de cette manière-là et qu'on nous annonce un sale truc tout pourri de parcours d'obstacles à la con, eh ben franchement, ils pouvaient se le garder parce que vraiment, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est Bianca Belair et Bayley qui se mettent sur la tronche et pas les voir sauter des haies, tu vois. C'est vraiment le truc qui m'intéresse pas. Donc, je ne comprends pas. En plus, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que Bianca Belair, elle avait eu plusieurs vignettes pendant quelques SmackDown consécutifs où on la montrait justement faire des exploits athlétiques et tout ça. Donc, on a bien vu qu'elle savait très, très bien courir, qu'elle était très à l'aise dans toutes les épreuves d'athlétisme. Donc, je ne vois pas trop quel est l'espoir de Bayley, qui, je pense, en termes de pondéral, est un peu plus massive que Bianca Belair. Et donc, je pense qu'elle va se faire un peu démolir sur un parcours d'obstacles, quoi. Donc, je ne sais pas. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Je ne vois pas ce que ça vient foutre dans le bousin. Pour moi, c'est à côté de la plaque. Donc, je laisse la parole à Papy parce que là, non, je t'ai plus.
Non, mais alors moi je pense que je fais ça parce qu'elle est heal, mais elle est forcément quand t'es heal, t'es stupide. Et donc tu vas provoquer le gars sur là où il est le meilleur. Et puis de toute façon, elle va tricher. Donc pour moi, ça pose absolument pas de problème. Elle va tricher comme pas possible et puis elle va gagner. Et puis voilà, elle dira j'ai gagné en trichant.
Génial.
Puis voilà, c'est un segment de remplissage. Moi, ça me choque pas tant que ça. J'ai eu très peur l'ouverture du segment parce que il y a eu un segment assez similaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de similarités avec Britt Baker, là, la AEW. Qui fait aussi un segment dentiste la même semaine, qui est aussi un rôle modèle, donc il y a beaucoup de similarités entre les deux, et qui pour le coup était complètement pérave, le segment de l'AEW. Et donc là, c'est comme. J'ai eu très peur quand j'ai vu le Sud Bailey démarrer, parce que je me suis dit, oh putain, ça ressemble à deux gouttes d'eau. Et en fait, non, c'est comme bien plus sympa. Et, bon, tu vois, il n'y avait que deux filles, et c'était un peu moins bordélique. Et puis voilà, quoi. Sinon, moi, ça ne me choque pas, parce que de toute façon, je pense que leur rivalité va se projeter dans le Rumble. Et que après c'est post Rumble, donc je suis pas méga étonné et pas méga inquiet parce que de toute façon je pense qu'il y aura d'autres plans pour ces filles-là à WrestleMania et donc c'est vraiment pour allonger un peu la rivalité et qui se terminera certainement à quelques encablures de WrestleMania je pense.
Ouais et puis il faut continuer peut-être à présenter Bianca Belair au public,
oui.
Sachant qu'elle a quand même un petit déficit de taille, hein. Elle est quand même plus petite que Bayley, mais bon, elle a un vrai physique d'athlète, elle, pour le coup, donc voilà, on va jouer la carte de l'athlétisme.
Bah, Bayley, c'est différent de, je crois, chez les filles. Hein.
Ouais, clairement, elle, Carmella,
Carmella, elle n'est pas si grande.
Ouais, elle est quand même
Carmella,
plus grande que Seth Rollins, par exemple, tu vois.
Bah, Carmella est tout le temps en talon, alors ça fausse aussi un peu la perspective, quoi.
Parce que vraiment, elle sort le ring, quand elle est stagnée dans le ring, on voit que Bayley était la plus grande des quatre.
Ouais, peut-être qu'elle est quand même au-dessus, hein, Bayley.
Si j'en crois les fiches des catcheuses, Bianca Belair est annoncée plus grande que Bayley, hein, parce que Bayley est annoncée à 1m68 et Bianca Belair à 1m70.
Ouais, mais on sait que c'est très peu. C'est très peu fiable les fiches Wikipédia.
Parce qu'elle est un peu trapue aussi, Bianca Belair. Peut-être que c'est ça qui fait l'aspect, quoi.
Ouais, ouais. Non, clairement, elle est plus petite. Hein. Ça se voyait à l'écran. Encore Bayley, elle est pas mal au micro, hein, moi, je trouve. Hein. Elle tient quand même bien son truc. Et donc, il y avait un mauvais segment à la All Elite Wrestling cette semaine.
Il y a eu un segment de dentiste qui était. Enfin, moi, en tout cas. Je n'ai pas encore écouté votre review de la baston, mais moi, en tout cas, je l'ai trouvé affreux, ce segment. J'ai rien compris.
Étrange. Cesaro.
Les deux haters de la Holy Festival sont réunis. Donc, peuple de catch-up, soutenez-moi dans cette épreuve.
Mais non, mais il était vraiment pas bon.
Bon, écoute, il y a une bonne bagarre générale à la fin du segment. Ça se met bien sur la tronche dans tous les sens. C'est voilà quoi.
Il part à une télé, tu comprends rien. Et t'es des filles qui n'est pas à cette télé. Il lance un segment, c'est pas pourquoi il lance un segment de la semaine dernière à la télé. Tu comprends que dalle quoi.
Non, mais c'est parce que ton anglais est très mauvais, papy, c'est pour ça.
Ces accusations sans fondement. Allons dans les vestiaires. Daniel Bryan est en train de s'entraîner avec Otis et Chad Gable. Voilà, ça c'est un segment hein, qui veut dire quelque chose.
Voilà, ah oui, formidable.
Alors, le gros
derrière ce segment.
Ouais, le gros Otis est là, Chad Gable est là aussi, Daniel Bryan, ça s'entraîne. Et puis il y a Cesaro qui débarque et puis qui commence un peu à se foutre de leur gueule. Et Bryan leur dit, viens, on va régler ça dans le ring. Et ça tombe bien parce que c'est justement leur match après. Et Michael Cole n'a pas l'air de bien tout comprendre ce qui s'est passé parce qu'il nous dit ouais, je crois que c'était plutôt dans la journée le segment que vous venez de voir. Je suis pas du tout sûr que c'était ça. Hein. Bref, Cesaro, Bryan, c'est un super match évidemment. Hein, les deux se foutent sur la gueule gaiement. Alors, par contre, Cesaro, toujours monsieur, je prends des risques n'importe comment. Petite planchette japonaise là où on l'envoie dans les cordes, il retombe sur Daniel Bryan et puis alors les deux têtes se télescopent, il s'ouvre à l'arrière du crâne Cesaro, alors allons-y, et puis Daniel Bryan il a l'air un petit peu sonné, mais bon ça continue, c'est un super match, il y a des grosses prises dans tous les sens, on n'a pas vu ça depuis longtemps là, on va sur le coin du ring, incroyable quand même ce qu'ils font. Hein. Ils se sortent de prises de soumission les uns dans les autres pour sortir des superplexes là. Et à la victoire, à la surprise générale, c'est Cesaro qui gagne le match sur Neutralizer. Il y a aussi une grosse séquence à l'extérieur là où Daniel Bryan il met un gros coup de pied dans la gueule là, à Cesaro avant que Cesaro finisse par esquiver encore un coup de pied et puis Daniel Bryan se pète la jambe sur le coin du ring. Ce qui va handicaper un petit peu Bryan et puis du coup voilà, victoire de Cesaro sur Neutralizer. Grosse victoire de Cesaro. Par contre, j'ai pas compris si Cesaro était face ou heel dans l'histoire. Peut-être que tu pourras m'expliquer, papy.
Je crois, enfin moi en tout cas, je pense qu'on le sait pas encore. Qu'il est juste fort, en tout cas. C'était surtout ça pour dire Cesaro is back. Il n'y a pas que Nakamura qui a retrouvé la forme, il y a aussi Cesaro. Donc je pense que c'est pour surtout le replacer lui et bon en plus avec le Rumble qui arrive. Je parlais tout à l'heure de Bayley et Bianca Belair qui a certainement un programme post-Rumble. Bah, je pense que Cesaro et Nakamura, ça sera un peu la même chose. Là, on est en train de la replacer avant le Rumble. Ils vont certainement avoir une interaction dans le Rumble. Et puis après, ça, ils vont dérouler derrière.
Ça, tonton, toi, convaincu du coup, bon match là, quand même.
Ah ouais. Là, franchement, très très bon match. Quoi. Là, je pense que les deux Indie Darling qui se retrouvent là pour un match de 12 minutes dans un SmackDown, là, franchement, c'était vraiment du bonheur. Les mecs, comme tu l'as dit dans ton play-by-play, voilà, vraiment ont déroulé à peu près tout ce qu'ils savent faire. C'était vraiment excellent. Effectivement, le positionnement de Cesaro semble un peu pas très 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 clair. On ne sait pas trop exactement en fait ce qu'il veut. Et finalement, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas trop ce que veulent les deux, parce que même Daniel Bryan, finalement, leur situation dans la carte là, elle est un peu délicate. Hein. On ne sait pas trop. Ils sont pas à la chasse spécialement de l'intercontinental. Pas à la chasse spécialement du titre suprême, il y a un espèce de truc un peu étrange. J'avais envisagé aussi pendant un temps qu'on les mette en équipe ensemble, mais comme Cesaro semble continuer à être bien poteau avec Shinsuke, ça me paraît pas d'actualité. Du coup, ça nous offre quand même le meilleur match de la soirée pour moi, hein, de très 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 loin. Vraiment, c'est vraiment génial hein, quand les deux se donnent. Et encore, hein, moi, je pense qu'un Daniel Bryan versus Cesaro, j'en prendrais bien 15-20 minutes. Avec une grosse stipulation et avec peut-être une ceinture aussi dans l'équation, pourquoi pas. Mais vraiment, ces deux-là, on sent que voilà, on sent qu'ils se connaissent depuis des années et des années, quoi. Et voilà. Alors, j'imagine que là, Raphaël, il a dû bondir de son canapé, quoi, parce que dans les awards, dans ses vœux, il voulait que Cesaro soit champion du monde. Eh bien, écoute, voilà, est-ce que Cesaro est lancé sur la voie du succès dans cette année 2021 ? L'avenir nous le dira.
Exactement. On a pris maintenant l'habitude de plus s'enflammer pour Cesaro. Mais quand même, là, un premier pas vers un retour en grâce du Suisse.
Et il a de la promo. Il a du micro. On lui donne du micro.
Il a du match.
voilà, j'ai envie de te dire que depuis, ça lui a fait du bien finalement cette mise en équipe avec Nakamura, puisque c'était lui vraiment pour la première fois le leader au micro dans l'équipe. Et que bah, peut-être que les officiels à la WWE se sont dit « Ah, mais finalement, bah, Cesaro, il commence à gérer de mieux en mieux le micro. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec lui. » Et puis, je pense qu'une des chances de Cesaro aussi à SmackDown, là, et ça, il faut quand même le signaler largement, c'est que, dorénavant, Daniel Bryan fait partie de l'équipe créative à SmackDown. Mmh. Et exactement. Il fait partie des producteurs, des bookers. Et je pense que, bah, fatalement, vu le lien d'amitié fort qui existe entre les deux hommes, j'imagine bien que Daniel Bryan, il a l'intention de booker sévèrement et furieusement notre ami suisse, quoi.
Ouais, ouais, ça ressemble à ça. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi Daniel Bryan n'est pas plus impliqué dans les rivalités, pourquoi il n'a pas de rivalité précise à l'heure actuelle. Il y a un petit gloubi-boulga là au niveau de la mid-card où tout le monde pourrait affronter tout le monde, hein, un petit peu. On verra dans la suite. Mais effectivement, ça sent bon pour Cesaro. Donc on va croiser les doigts, puis on va voir ça la semaine prochaine. Ce qui est prévu pour le Suisse. Et ben on a encore du bon catch derrière, hein, grosse affiche. Apollo Crews affronte Sami Zayn.
Et oui.
Mais oui, les deux un peu prétendants à la ceinture intercontinentale, hein, qui pourraient être champions l'un comme l'autre. Ils s'affrontent ce soir. Sami Zayn est toujours accompagné de son équipe de réalisation de documentaire, les caméras, hein, qui le suivent. Il est en train de monter un documentaire sur le complot qui lui a fait perdre sa ceinture.
Hein, ouais, donc, c'est les victimes.
Voilà, Biggie est dans un canapé à côté des commentateurs. Il mange un espèce de mix entre des raisins et des radis. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, il regarde le match. Donc, on a un joli petit match, encore une fois, entre Apollo Crews et Sami Zayn, qui sont bien en jambes ce soir. Sami Zayn, ce petit tricheur, va essayer de gagner le match avec un roll-up en tenant le slip de combat d'Apollo Crews. Apollo Crews, il va faire de même. Puisque l'arbitre voit bien que Sami Zayn tient le slip, alors il dit oh, ça se passe pas comme ça. Après, Apollo Crews va en profiter pour lui faire la même chose à Sami Zayn. On va voir un petit peu l'arrêt de Sami Zayn, hein, c'est pas très classe. voilà, victoire de Apollo Crews avec les doigts qui puent et on s'engueule avec Biggie à l'extérieur du ring. On se lance des défis, on se dit on se voit la semaine prochaine, on va se foutre sur la gueule. Apollo Crews veut sa ceinture intercontinentale. C'est lui le vrai champion, je le rappelle. Biggie n'est qu'une fraude, mais Biggie, il en a des choses à dire au micro aussi, auprès des commentateurs. Est-ce que tout ça se profile bien au niveau du titre intercontinental ? Tonton, dis-nous tout.
Eh bien, je crois que oui, je crois qu'il y a une belle animation pour cette ceinture-là. C'est plutôt bien d'avoir autant de mecs là, qui tournent autour de la ceinture de Biggie, là. Ouais. Moi, je suis un peu déçu par le match, hein, pour le coup, hein, parce que 3 minutes,
c'était super court.
Franchement, c'était super court, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus velu, sachant que c'était le dernier match, vraiment le dernier match de catch de la soirée. Moi, j'ai été assez déçu, en fait. Hein. Je t'avoue que 3 minutes, non, je me suis dit, merde, ils ont abusé. Après, la fin était plutôt assez marrante avec cette histoire de roll-up, parce que vraiment, le Sami Zayn, il valait piquer une crise auprès de l'arbitre, la Jessica, là. Il est tout fâché face à l'arbitre, quoi. Et derrière, il se prend la souplesse qu'il veut mettre son LOV kick, mais ça marche pas. Et effectivement, et ben écoute, Sami Zayn a une magnifique raie et la production devait être dégoûtée parce qu'ils ont pas eu le temps de la flouter. Donc dommage, on aura vu la magnifique raie de notre ami Sami Zayn, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la santé, j'ai envie de dire, de la title picture de l'Intercontinental.
Exactement. Vous voyez venir la triple frite là pour le Rumble.
Oh oui, mais ça serait chouette. Hein. Alors là, ouais. Moi, je suis assez partant. Hein. Zayn, Crews, Biggie, ça peut envoyer du lourd. Mais il faut qu'on leur donne du temps. Et puis une belle stipulation aussi au passage, ça serait pas mal.
Papy.
Ouais, bon, on a déjà un Crews Biggie qui est prévu pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises.
C'est vrai.
C'est annoncé peut-être un peu plus tard.
Ouais.
Donc, on a déjà ça qui est prévu. Effectivement, Zayn, c'est bien qu'il reste autour de ça, parce que c'est toujours un risque quand tu es champion que tu perds ta ceinture, que tu te retrouves d'un coup totalement dégagé de toute histoire. Mais là, Sami Zayn reste bien, bien, bien placé. Effectivement, il était bien épilé, on a pu tous le constater. n'y ait pas de souci. Mais sinon, voilà, c'était ouais, effectivement un tout petit match, mais c'est des confrontations qui sont amenées à se répéter et se répéter encore et encore dans les prochaines semaines, je pense.
C'est vrai. Là, on a un joli trio pour se faire des matchs dans tous les sens. Et c'est l'heure d'arriver au main event.
Mais dis donc, je suis hyper étonné, Ringside. Hein, vraiment, c'est l'âge ou quoi? Mais t'as oublié de parler de ta chouchoute, quoi. Et ça, alors.
Bah là, oui.
Parce que je suis en train de te chercher un truc, en fait, en même temps. Et du coup, j'ai zappé le bordel. Alors, Carmela est interviewée. Elle est avec son petit pote Reginald. Donc, il y a l'intervieweuse qui dit: alors, la semaine dernière, vous avez dit. Elle dit: ah oui, la semaine dernière, Carmela nous dit. Oui. J'ai bien dit que Sasha Banks était nul et que moi j'étais super et que en talent naturel, eh ben elle peut pas me battre, etc. Et là, il y a Sasha Banks qui débarque. Elle y va pour taper sur la gueule de Carmella, mais Reginald s'interpose et ça va être vite réglé. Sasha Banks, elle lui dit: bon, si tu veux un match de championnat, eh ben c'est ok, mais d'abord, moi je veux un match avec Reginald. Donc on aura un match entre Reginald et Sasha Banks, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Court mais efficace.
Ça serait dur pour les féminines la semaine prochaine, hein, parce que ça voudrait dire qu'on a une course d'obstacles avec Bayley et un match avec un valet pour Sasha. Mais bon, après, c'est court mais efficace. Voilà, c'est très bien choisi comme terme.
Ouais, que la WWE s'essaye à l'intergender, pourquoi pas, hein, ça peut être assez surprenant. Ils le font très, 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 très rarement quand même, quoi. Donc, c'est assez, voilà.
Bah, t'auras aucun coup du gars, quoi.
Ouais, il y aura très peu de coups du gars, un peu à l'image quand il y a Ronda Rousey.
J'espère bien, on va pas taper les filles quand même.
Ouais. Et puis, bah, je pense que Sasha Banks, de toute façon, elle va lui faire beaucoup de mal, hein. À Reginald, je pense qu'elle a l'intention de le faire souffrir, ce garçon. Hein. Donc, d'ailleurs, lui, sur la fin du segment, au début, il est souriant et tout, et puis à la fin, quand même, il fait un peu la gueule, hein, parce qu'il se dit, voilà, je me suis retrouvé dans un faux plan, là. Et, bon, après, moi, je supporte pas Carmella, donc finalement, je suis presque plus content de voir Reginald face à Sasha que voir Carmella, donc c'est très bien.
Ben voilà. Comment satisfaire ce bon vieux tonton?
Ouais, puis moi je suis pas contre moi l'intergender dans le catch, c'est quelque chose que moi j'ai découvert en fait par le biais de la Lucha Underground. Après j'avais été voir un peu différentes choses là-dessus, j'avais vu Candice LeRae aussi qui était apparemment une grande spécialiste de l'intergender, qui avait même affronté son mari d'ailleurs. Et moi si la WWE ose un peu faire quelque chose. Si effectivement Reginald se défend un peu et se contente pas de faire des flips arrière et ne veut jamais donner un seul coup, et ben pourquoi pas, moi je suis assez pour le fait de tenter un peu l'expérience et voir un peu ce que ça peut donner. Et je suis sûr que Sasha Banks va être hyper à l'aise dans ce genre de truc et qu'elle est totalement capable de s'adapter et de prendre des coups d'un homme et d'en mettre plein la gueule à un homme. Je suis confiant envers Sasha à ce niveau-là.
Bah, on avait eu James Ellsworth contre Becky Lynch il y a pas si longtemps. Nia Jax dans le Rumble, où là, elle s'était quand même pris bien la tronche, un petit RKO par...
Ah oui, c'est vrai.
Par Randy Orton, hein, n'oubliez pas. Voilà, il y a quand même peut-être trois petites choses qui ont été faites. Alors, moi, je suis complètement contre l'intergender. Hein. Ça, c'est un non définitif de ma part. Déjà, de un, ça, c'est ce qui a tué la Lucha Underground. Hein. Faut pas se leurrer, les ratings, elles sont tombées quand il y a eu des segments avec comment il s'appelle, Zero Fear là, Pentago Junior qui pétait le bras des gonzesses là. Ça marche pas du tout au niveau du grand public. Et puis si jamais t'as une gonzesse qui se blesse dans un match où elle affronte un mec grièvement, admettons, ça peut faire beaucoup beaucoup de mal au business. Donc voilà, je sais que ça se pratique, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais alors, moi c'est un non clair et définitif sur ce genre de truc. Maintenant effectivement à la WWE généralement c'est carré. Je pense qu'on va se partir sur un truc de comédie wrestling.
Oui.
Comme on l'a vu avec justement James Ellsworth et Becky Lynch en son temps. Et puis il est marrant ce petit Reginald. On a vu qu'il n'avait pas l'air d'être trop mauvais entre les cornes. Donc je pense que ça peut être un segment bien sympa. Est-ce qu'on va enfin pouvoir attaquer ce main event? Ou est-ce que j'ai encore oublié d'autres choses?
Non, non, là, là, là,
effectivement, je suis rouillé, donc c'est pas impossible que j'ai oublié d'autres trucs.
Le tour de Seth Pins, ah bah non, il est pas revenu.
Oui, non, c'est pas, c'était pas cette semaine. Donc voilà, donc Roman Reigns, c'est Adam Pearce, Paul Heyman, ils sont tous là. Il y a peut-être Jey Uso aussi qui est là. Dans le ring avec la fameuse table qui est jolie comme ça. On dirait qu'il y a de la poussière dessus comme ça. Donc déjà ça se passe mal parce que Adam Pearce il se met assis dans un fauteuil, Roman Reigns il débarque et il dit non mais ça c'est mon fauteuil, donc, tu te mets pas assis là, tu te mets assis de l'autre côté, t'es gentil, merci. Donc bah, c'est l'heure de signer. Bon, ça dure pas 1000 ans hein. Roman Reigns signe le truc et là Adam Pearce il sourit. Il dit, ah ben dis donc, ça fait toute la journée que j'attendais que tu signes ce truc. Et puis il s'en va. Alors Roman Reigns, il a l'air perplexe. Et en même temps qu'il remonte la rampe, Adam Pearce, il commence à boiter. Il dit, oh, oh, on dirait qu'il a mal à la jambe. Hein. Il est descendu un petit peu précipitamment du ring. Hein. Il a sauté comme ça. Et il s'arrête, il dit, eh ben oui, alors on a signé le contrat. Hein. Tout ça, c'est bien, mais tu sais, les contrats de la WWE, ils sont bien... sont bien ficelés et voilà, quand il y a des problèmes qui arrivent, on sait que les blessures ça arrive souvent un petit peu n'importe où, un peu n'importe quand, au pire moment, et là effectivement je suis blessé, mais ne t'en fais pas, il y a toujours un plan B et j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, et c'est nul autre que Kevin Owens qui débarque. Et du coup on apprend que c'est signé, ce sera Kevin Owens contre Roman Reigns. Roman Reigns qui est furieux. C'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown. Donc l'écran de fumée qui est dissipé, ce ne sera pas Adam Pearce qui affrontera Roman Reigns, mais bien Kevin Owens pour un ultimate match qui sera un last man standing pour le coup. Tonton, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, bon, écoute, le segment en lui-même était plutôt sympa. Voilà, j'ai toujours ce Roman Reigns qui est propre, qui est impeccable. Voilà, j'adore là quand il arrive sur le ring et qu'il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là, vous me refilez mon fauteuil là et moi je m'installe à la place du chef de table, ok, vous arrêtez vos conneries. Donc tout ça, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, mais moi je suis mitigé. Je m'explique, c'est pas que je sois pas content de voir débarquer Owens et qu'on nous offre un match 3 entre Owens et Roman Reigns vu la qualité des deux premiers matchs. Mais c'est que moi, j'aurais pas fait ça de cette manière-là. Je n'aurais pas fait revenir Owens dans un match face Roman Reigns. J'aurais laissé le pauvre Adam Pearce se faire démembrer par Roman Reigns. Et moi, j'aurais aimé que Kevin Owens, finalement, on fasse une espèce de petite histoire autour de lui, comme quoi il aurait été en déprime, blessé dans son orgueil d'ailleurs, on peut dire aussi. On aurait même pu faire monter la sauce à un point en disant quasiment que Kevin Owens il était au bord de quitter la WWE. Et là, paf le chien, le Kevin Owens, il débarque au Royal Rumble match en numéro 30 et il gagne ce Royal Rumble match. Parce que moi j'attends depuis longtemps de voir Kevin Owens gagner le Royal Rumble. Et du coup, je trouve que tout ça, c'est allé trop vite. Voilà, finalement, le passage à tabac de Owens date de TLC. Il a été absent finalement très peu de temps. Il revient. Donc voilà, c'est pas que le segment m'a pas plu, c'est pas que c'était pas bien et tout ça. C'est plutôt le booking en lui-même qui me pose problème. Moi, je sais que j'aurais gardé sous la semelle le Kevin Owens et je l'aurais gardé au show pour le Royal Rumble match. Bah, ils ont décidé autrement. Ils ont décidé de le faire revenir 2 semaines avant. Et finalement, ils vont le coller dans un match face à Roman Reigns. Et ça sous-entend aussi peut-être que Kevin Owens sera peut-être même pas des 30. Dans le Royal Rumble match, et ça, je vous avoue que ça m'ennuie fortement.
Toi, ou alors il sera des 30, mais en mode ultra sur résistant qui revient en boitant et tout, face à Jey Uso qui sera justement peut-être. Alors, Jey Uso, je sais pas si. Est-ce qu'il va rentrer peut-être en 30 du coup avec tous les pouvoirs de Roman Reigns. Bon, on se rend compte maintenant qu'il a plus tant de pouvoir que ça, vu qu'il vient de se faire blouser. Donc j'attends de voir que là pour le coup. Alors moi j'étais ravi de ce segment là. Il y a eu un petit souci de micro avec Adam Pearce, c'est un peu dommage parce que sa révélation tombait à l'eau, même si du coup on comprenait comme ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était en train de jouer la comédie et qu'il allait ramener quelqu'un. Et dans ce cas-là, quand il ramène quelqu'un, alors, c'était est gros comme une maison, que ce serait Kevin Owens pour moi. Et j'en étais ravi, parce qu'effectivement, alors, on pourrait aussi dire bah, Kevin Owens aurait été bien qu'il soit de côté pour revenir à WrestleMania, mais en même temps, Kevin Owens, bah, faut pas le faire tant qu'il est chaud, et en ce moment, il est bien, bien chaud, et il n'avait pas perdu de manière définitive contre Roman Reigns jusque-là. Donc, je pense que c'était un bon choix pour le Rumble, et je suis content qu'il arrive dans la title picture, mais en tout cas, j'ai trouvé le segment vraiment bien rondement mené, là, le petit retournement de situation au dernier moment qui fait plaisir. Adam Pearce qui n'est pas si stupide que ça, parce qu'au même moment où il signait son contrat, j'ai dit, mais il est quand même con d'accepter comme ça, sans jamais rien dire, et Roman Reigns qui signe derrière sans rien regarder non plus. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais effectivement, il a fait ce qu'il voulait, Adam Pearce, et il a manipulé Roman Reigns comme un chef. Et c'est drôle parce qu'en fait, finalement, en reprenant du coup le pile arrière du show, en fait, tu vois, au début, qui tourne autour du contrat en disant ouais, bah, tu vois, ça contrat avec les conditions d'habitude, etc. Mais bah, la condition d'habitude, c'est qu'il y a une petite porte de sortie pour Adam Pearce et que bah, du coup, Eman et Roman ont été tellement confiants qu'ils se sont fait avoir comme des bluffs.
Ouais, c'est pas les grands masterminds qui prétendent être, hein, la famille Roman Reigns. Hein. L'avocat Paul Heyman, je sais pas combien il prend par semaine, mais c'est peut-être pas justifié son salaire. Ouais, bon, moi je suis plutôt content de voir Kevin Owens débarquer dans tout ça. De toute façon, j'ai expliqué, hein, que j'étais pas très convaincu la semaine dernière d'avoir une rivalité entre un general manager face et un top guy heel. Voilà, bah ça se précipite, c'est bouclé en une semaine. On va partir sur Kevin Owens la semaine prochaine. Alors, je pense qu'il reste 2 semaines avant
une seule, je crois. Attends. Dans 2, oui, t'as raison.
Ouais, c'est ça. Donc, on sera pas encore au Go Home Show la semaine prochaine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous raconter de plus. Effectivement, bah, on verra bien. Le segment est bien joué, effectivement. Hormis la panne de micro d'Adam Pearce, ça c'est dommage. Mais effectivement, c'est traité très rapidement. Et puis, on en arrive finalement à avoir Kevin Owens dans l'histoire. Maintenant, je suis super chaud d'avoir un Kevin Owens Roman Reigns en Last Man Standing, mais on va se mordre les doigts de pas avoir le public encore une fois, hein. Ça va être un gros coup d'épée dans une mare, je ne sais pas, mais
ouais, puis la WWE a annoncé de toute façon qu'il n'y aurait pas de public, hein.
Apparemment ils l'ont dit, ouais.
Ah ouais, ils l'ont annoncé parce que c'était trop compliqué techniquement. Il fallait démonter tout le Thunderdome, etc., et que juste pour un soir comme ça, ils pouvaient pas se permettre ça. Donc, et tant que les vaccins aux États-Unis seront pas arrivés, de toute manière, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir le public dans un show de la WWE.
C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Bon, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Moi, je voyais pas vraiment comment ils pourraient s'en sortir.
Ça va être terrible, hein. Ça va être le premier Royal Rumble de l'histoire sans public. Et quelque part, pourtant, j'ai envie de dire que d'un autre côté, c'est peut-être un rêve ultime de Vince McMahon parce que il fait ce qu'il veut avec le son. Finalement, hein, c'est tout ce qu'il a toujours rêvé, Vincent. Là, hein, c'est...
Non, je ne pense pas. Ça, c'est ce qu'on lit sur Internet, mais non.
Je ne pense pas
qu'il est content de faire des choses en public. Ça, c'est pas possible. Hein. Alors, d'accord, ouais, c'est peut-être plus simple pour eux de monter des rivalités sans que les gens viennent pourrir le truc, mais. Je vois pas, à aucun moment, je pense qu'ils soient contents d'avoir un show sans public, ça c'est...
Ouais, et puis de toute façon, même quand le public pourrit le truc, ils arrivent toujours à remettre...
Voilà, ils rebondissent dessus.
Ils sur leur point de vue, donc... Je pense qu'il n'y a pas...
Dans quel monde, on pourrait croire qu'un mec qui est le plus grand producteur du catch du monde, il pourrait être content de faire des shows sans public, faut pas déconner.
Je crois que sur certains aspects, ça l'arrange quand même.
Ah bah oui, t'as des segments qui sont plus simples à bouquer du coup, parce que tu peux faire ce que tu veux. Mais sinon,
pour Apollo Crews quoi, mais je pense pas que Vince McMahon en ait quelque chose à foutre d'Apollo Crews. Je la garde pas quoi.
Mais si quand je vois TLC, je me dis que le Rumble, c'est triste de le voir sans public, mais s'il le book aussi bien que TLC, ça devrait passer quand même crème et petit à petit nous faire oublier l'absence du public.
Je pense que ça, ils vont se lever le cul, hein, je pense, un minimum. Hein.
Après, un Royal Rumble sans public, j'avoue que là
surtout avec un roster réduit en plus. Hein,
je me prépare psychologiquement, là, parce que là, ça va être compliqué. Hein.
Là, en plus, il y a un féminin. Hein.
Oui, il y a les deux.
Dans le challenge, il est costaud. Hein, il est costaud le challenge là pour ce Royal Rumble.
Vous pouvez trouver les filles.
Ouais, t'as fait le calcul, je crois.
Ah bah, je les ai comptés ce soir. Je me suis dit, bon, alors, il y a Carmela et Sacha qui se battent l'une contre l'autre. Et il reste combien? Bah, j'en ai trouvé 7. Du coup, les 3 du Riot Squad. Comment ça s'appelle? Natalia et Tamina, ça fait 5. Bailey et Bianca Belair, 7. Voilà, terminé. Ouais.
T'as quasiment aucune.
7 sur 30. Il reste 23 à trouver.
C'est les filles d'NXT qui vont être contentes. Elles vont avoir une.
Ah, bah là, il va y avoir un paquet, je pense.
Il y a des places à prendre, on va dire. Donc voilà, bon, on croise les doigts, on sera là, hein, de toute façon, pour vous commenter le Royal Rumble. C'est l'heure du mot de la fin, les enfants. Il faut donner un top, oui. Un flop, une note. Et ben, Papy, t'as l'air fou de joie, là, vas-y.
Ah, bah, je suis fou de joie. Alors, mon flop, sans hésitation aucune, je donne au Street Profit. Qui sont leur micro dans le couloir, j'en ai ras-le-bol. Donc, c'était vraiment le truc qui m'a le plus déplu de ce show. Le reste est vraiment passé crème. Plein de choses positives, plein de bons souvenirs de ce show. En top, bah, c'est malheureux parce qu'en fait, c'est tout le temps le même, mais je vois pas comment je peux ne pas le donner à ce heel puant de Roman Reigns qui choisit les stipulations, qui vire les gens des chaises et tout, qui met qui dit aux gens reste debout, reste assis. Enfin, c'est vraiment le patron dégueulasse, ce Roman Reigns. Et donc, du coup, bah, il mérite un top parce que moi, j'aime les patrons dégueulasses. Et ma note, je ne sais comment dire parce que c'était vraiment un bon show. Je vais mettre un 3,25, allez, pour ce show parce qu'il était vraiment sympa, sûr.
3,25. Tonton ?
Ouais, bah écoute, c'était un bon show, effectivement. Ouais, c'était pas fou, mais c'était un bon show. Alors moi, mon flop, je vais le donner à la course d'obstacles inventée, entre guillemets, par Bailey et Bianca Belair, là. Vraiment, mais alors un truc dont j'ai rien à foutre, mais totalement. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais non, pas ça, quoi. Donc vraiment, je ne comprends pas, je ne veux pas de ce truc-là, je ne sais même pas si je le regarderai, je vais peut-être le boycotter juste pour faire chier le monde. Vraiment, je trouve que c'est de la merde, et je le dis haut et fort. Mon top, je vais le donner à Cesaro et Bryan, parce que c'était vraiment, pour moi, le meilleur match de la soirée. C'était vraiment excellent, ça j'en reprendrai encore et encore et encore, à tout le contraire de la course d'obstacles. Vraiment, s'ils nous sortent un beau programme avec Cesaro et Daniel Bryan, bah, pourquoi pas. Et si c'est en plus quelque chose qui nous lance Cesaro vers une belle année 2021, et moi, je suis encore plus preneur. Donc mon top va à ces deux gars-là. Et ma note, c'était pas mal. Ma note, je vais lui mettre un 3. Voilà, je vais lui mettre un 3 à ce Friday Night SmackDown.
3. Écoute, moi je vais mettre mon flop aux absents, hein, où sont passés les acolytes de Corbin, où est Lars Ulrich, où est Murphy, tous ces gens sont tombés dans l'oubli, je trouve ça un peu triste. Le top, je vais le donner au retour en grâce de Cesaro, voilà, qui nous fait un très beau match. Alors qu'il fasse attention de pas se blesser, hein, celui-là, j'ai déjà peur qu'il ait calmé un petit peu le management, hein, en se blessant comme ça dans un match télé. Mais en tout cas, on est content de le revoir affronter notamment Daniel Bryan, ça c'est cool. Et je vais mettre aussi un bon 3,25 au show, qui était bien cool, hein. J'ai vraiment pas aimé celui de la semaine dernière. Là, on remet un petit peu l'église au milieu du village, on met un peu les pendules à l'heure, on remet un peu les intrigues dans le bon sens, un peu beaucoup même, et c'est plutôt cool. Maintenant j'ai envie de voir la suite. Je suis vraiment très content de ce SmackDown cette semaine.
On a l'avis de notre ami Raphaël aussi pour ce show.
Et oui, Raphaël qui a le temps de poster son avis.
Et bah écoute, pendant que je suis dessus, hein. Donc on va vous donner notre ami du Raphaël hier, qui nous dit tout simplement, ben, excellent show. Il est ravi que le dernier catch-up du SmackDown de la semaine dernière ait été écouté par la WWE. Donc apparemment, vous aviez déjà. Vous aviez fait des spoilers, les amis, la semaine dernière pendant votre review de SmackDown. Quoi.
Et on avait dit quoi faire.
Et ouais, donc apparemment, tous nos vœux ont été exaucés, nous dit-il. La WWE n'a pas enterré Cesaro du tout au profit de son pote. Et le match Pierce-Reigns n'était bien qu'une ficelle. Donc, beaucoup de très bonnes pistes. L'explosion du Suisse, carrément, il est dans l'explosion du Suisse. La piste Apollo dans le clan Heyman et le retour de KO. Il note que Bailey imite très bien Florence Foresti, apparemment. Alors, il faudra qu'il nous explique à l'occasion. Et son top, c'est Cesaro, enfin, enfin. Bon, on va pas s'enflammer trop vite, nous dit-il quand même, et espérer le voir super champion cette année, mais ils lui ont trouvé un rôle et une porte ouverte dans cette histoire. Il lui donne Bryan clean, c'est prometteur, et quel beau match. Voilà, on est bien d'accord, mon Raphaël. Et son flop, c'est le micro d'Adam Pearce. Et sa note, lui, il nous met carrément un 4 sur 5, le Raphaël.
Oh, ben il est plus généreux que nous. Ben voilà, on aurait pu se passer d'émission et puis juste lire l'avis de Raphaël. Hein. Ça, ouais, ça résume bien la totalité du truc.
L'enthousiasme de la jeunesse.
Ah, quel homme.
C'est ça. Bah écoute, il a bien aimé le show de la semaine dernière, donc là, je pense que c'était encore mieux. Donc, il est comme moi, il est ravi. Hein. Et on est content quand la WWE nous fait des bonnes émissions. Hein. Voilà. Alors, l'autopromo, on l'a fait en début d'émission, je la refais vite fait. Hein. YouTube, les bordels de podcast, bah, vous avez ça partout. Vous vous abonnez. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook, sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est aussi sur Instagram. Surtout, commentez dans les... en dessous de YouTube, là, ça nous permet d'être plus visible encore qu'on est déjà. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode de la semaine, commencez à nous donner des pronostics pour le Rumble, là. Qui c'est que vous voulez voir gagner, qui sera l'homme surprise de l'acolyte surprise de Rey Mysterio pour la semaine prochaine. Voilà, tout ça, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Sinon, on se retrouvera très bientôt. Tonton, je te remercie beaucoup d'être venu.
Eh ben écoute, c'est moi, Ringside. C'était avec plaisir.
Plaisir partagé. Papy, merci à toi également.
Merci, Ringside, pour l'invitation, pour un bon SmackDown. C'est toujours un plaisir.
Ouais, ça fait plaisir de pouvoir reviewer un match, un show de bonne qualité. Ça faisait c'est souvent le problème ces derniers temps. On s'est retrouvé. Ouais,
une drôle de semaine là, franchement, entre Raw, NXT et AEW, j'étais tout triste, et là, SmackDown, ça m'a redonné le sourire.
Voilà, ils finissent toujours par rebondir à WWE. Hein. Moi, effectivement, j'étais le moral dans les baskets avec le dernier SmackDown, mais ce show de cette semaine est sous les meilleurs auspices. En parlant d'auspices, vous passerez le bonjour à Ric Flair et à Lacey Evans, hein, de ma part.
Ils ont fini là.
Ils ont fini. Ben voilà. Ben oui, il est tôt, hein. Il fait nuit. Bon. Bref. Pardon, j'ai pas compris.
C'est le couvre-feu.
C'est le couvre-feu. Voilà. C'est aussi le couvre-feu pour Ric Flair. Voilà. Puis on se retrouve très bientôt. Les amis, je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. On débriefera Raw dans le prochain épisode. Allez, ciao les amis. Ciao, bye bye.
Salut à tous.
Salut Papy. Salut Ringside. Salut Peuple de Cacheur.
C'était le son, là, ce que c'est.
Même pas une connerie à dire. Ah bah, voilà.
Non, on est sage, on est repu de ce bon SmackDown.